C'est Oumu Sangaré que vous entendez chanter dans Rome et Ménage, une femme, Radio Zone 93.8. Oumu Sangaré qui accompagne notre entretien, notre rencontre avec Oumu Sy, qui est costumière, styliste sénégalaise et qui, par le biais de sa vie à elle, nous raconte un petit peu l'histoire aussi de certaines femmes africaines, certaines femmes sénégalaises. Oumu Sy. Tu nous as dit tout à l'heure que quand tu étais petite, tu vivais dans une famille où il y avait deux mères, parce qu'il y avait deux co-épouses, il y avait donc beaucoup d'enfants, beaucoup de filles, et c'est là que tu as commencé à coudre. Pourquoi ?
Parce que j'ai commencé quand j'avais 5 ans, la couture, avec ma grand-mère.
C'est une activité traditionnelle africaine, c'est normal que les filles apprennent à coudre, c'est ce qu'on leur demande dans les familles nobles, par exemple, d'où tu viens ?
Non, dans les familles nobles, quand même, les filles, elles ne cousent pas parce qu'on leur fait tout. Et là, c'est j'étais avec ma grand-mère, j'étais en Casamance, c'est une autre culture. En Casamance, les filles, on les enseigne à faire tout, c'est-à-dire à tenir une aiguille, à savoir recouler son habit s'il est décousu et qu'on sort. Ma grand-mère, elle m'apprenait ça. D'un coup, je la voyais faire, elle me dit quand tu auras 5 ans de plus, à l'âge de 10 ans, tu vas le faire. Alors moi, j'ai voulu commencer tout de suite. Alors quand elle n'est pas là, les tantes qui sont à la maison m'interdisaient de toucher à l'aiguille. Je pleurais jusqu'à ce qu'elle arrive. Si elle arrive, elle me donnait du fil et l'aiguille pour coudre. Parce que je n'aimais pas qu'on m'interdise quelque chose. Il ne faut jamais m'interdire. Je fais ce qu'on m'interdit. C'est toujours comme ça. Je n'aime pas les interdits. Alors, si on me prend par les sentiments, je laisse. Mais si c'est non, eh bien, je vais le faire. Rassure-toi, je suis tombée deux fois dans un puits quand j'étais une petite fille. Et je me suis noyée trois fois dans le fleuve. Et à chaque fois, on me repêche. Et je suis là jusqu'à maintenant. Tu vois, tellement que je suis peut-être parce qu'on m'interdisait de puiser l'eau dans le puits, parce que les bords ne sont pas cimentés. C'est juste creusé un peu parce que comme en Casamance, l'eau vient beaucoup et il y a l'eau de source qui vient là-bas et tout. Parce qu'il y a beaucoup d'eau de source qu'on vend à Dakar, ça vient de la Casamance. Alors le puits, il y a certains puits, il faut creuser 1,50 m, il y a de l'eau. Alors maintenant moi, le jardin de ma grand-mère, bon, ça me plaisait de puiser de l'eau pour arroser le jardin. Parce qu'elle faisait des salades, elle cultivait des salades, des légumes et tout ça. En même temps, elle avait ses champs de riz et tout. Alors, j'ai appris avec elle à cultiver le riz, cultiver aussi les légumes et qu'on sort. Alors maintenant, si elle n'est pas là, si elle est là, elle me donne l'arrosoir, elle puise l'eau. Mais j'attends qu'elle parte, je veux aussi apprendre ce qu'elle fait. Alors, une fois, je suis tombée dans le puits. Heureusement, il y avait des gens dans la maison. Je crie, ils entendent les cris, ils ne savent pas où je suis. Je suis dans le puits. Alors l'eau, il m'arrivait au cou. Hein. J'étais montée sur le bac et tout. Alors ma tante, elle fait sa mère, ça fait 1,50 m, elle me soulève. Alors on me casse la gueule. Comme on m'a cassé la gueule, alors, une autre fois encore, j'ai fait la même chose. Je me suis encore tombée dans le puits. Alors cette fois-ci, ils m'ont fait peur, ils m'ont dit, on va te laisser dans le puits, on va t'enterrer là-dedans. Comme ça, ta mère, elle ne te verra plus. Mais ce jour-là, depuis qu'ils m'ont sorti de là, je ne suis plus retournée là. J'ai fait attention, quoi.
Et alors, la passion de la couture, donc toute petite déjà, comme on dit souvent, pour les histoires qui en influencent après toute une vie. Donc, à 5 ans, tu prends ta première aiguille, ton premier fil et tu commences à coudre. Et alors, quelles vont être les étapes qui amènent aujourd'hui au fait que tu as choisi comme profession non seulement la couture, mais en plus tu crées des vêtements, ce qui est quand même une chose particulière.
Oui, parce que nous, on n'a pas de jouets comme les autres enfants. On doit créer nos propres jouets. Alors moi, je créais des poupées, je faisais des tresses, je créais les bijoux que les poupées portaient et tout. Et on allait ramasser ça dans les poubelles. Les poubelles n'étaient pas comme les poubelles actuelles. Hein. Il y avait des endroits, parce que s'il y avait du manger qui restait, on donnait ça aux chiens ou bien aux chats ou aux consorts. On ne jetait pas ça comme ça. Parce qu'en Afrique, quand même, il y a la religion interdit de jeter les restants des mangers. On donnait ça aux pauvres et consorts. Mais maintenant, on est devenu tellement moderne qu'on jette les mangers dans les ordures. Il y avait des ordures ménagères à part, des ordures des chambres et qu'on se comballait, on les mettait à part, ils ne mettaient jamais ça ensemble. Alors moi j'allais dans les ordures des tailleurs qui jetaient les ordures dans ces endroits-là, je ramassais des chiffons, des bressons de fil et je venais faire mes coutures pour mes poupées. Et c'est là que ça n'a jamais arrêté. J'ai commencé à... Je prends parfois mes propres habits, je déchire, je songe. Ma maman, elle m'engueule. Le lendemain, je refais la même chose. J'étais têtue, hein.
Donc, tu portais des habits complètement traditionnels africains, déjà à cette époque, et tu as gardé cette passion de l'habit traditionnel africain. Mais le travail du tailleur, tu le dis d'ailleurs chez nous, on parle très peu maintenant du tailleur. C'est rare, les tailleurs, ça n'existe plus beaucoup. Alors que c'est une profession qui existe souvent en Afrique. Quand tu as décidé, toi, d'en faire ta profession après les jeux pour s'amuser et pour habiller les poupées?
Enfin, décider d'en faire une profession, je ne sais pas, parce que moi, c'est... Je crois que même si j'étais multimilliardaire, je continuerais à créer et à coudre. C'est pas parce que je veux faire une profession, non, c'est parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Si par exemple, peut-être si mes parents ils me mettaient à l'école pour apprendre ou pour apprendre à lire et à écrire, peut-être je ne l'aurais pas fait. Parce qu'ils m'auraient exigé d'apprendre les leçons ou des choses comme ça, je n'allais pas le faire.
Tu n'es donc pas allée à l'école pour apprendre à lire et à écrire?
Non, parce que dans la famille où je suis née, les enfants doivent apprendre le Coran, mais pas l'école.
Mais on ne vous apprend pas à écrire les versets du Coran, par exemple?
Les filles, non. Les garçons, oui. Mais maintenant, enfin, avant aussi, il y avait une partie des femmes, on les apprenait à écrire le Coran et à le lire. Mais moi, comme je ne veux pas en faire un métier, je ne veux pas vraiment me plonger là-dedans, j'ai appris juste pour prier. Je n'ai pas appris le Coran profondément. Voilà. Parce que je ne voulais pas tout à fait me plonger là-dedans. Je voulais avoir une vie à part. Ça, c'est dès le début.
Et aujourd'hui, tu as compensé le fait qu'à l'époque, on ne t'avait pas envoyé apprendre à lire ou à écrire, ou tu as décidé de t'appuyer sur d'autres moyens d'expression?
Enfin, lire et écrire, je crois que je garde ça comme look principal. Parce que si les gens me présentent des choses à lire, je dis je ne sais pas lire et quoi que je suis en train de farcer. Or que je ne sais pas du tout lire et écrire. Parce que maintenant, je crois que par manque de temps, je ne peux plus apprendre à lire ni à écrire. Et puis, je ne sais pas si je savais lire et écrire, comment je allais faire. Bon, je préfère rester comme ça, naturel. Enfants, ils savent lire et écrire, ils vont à l'école. Mais je ne les force pas à prendre leurs leçons. Je les laisse tout seuls parce que je sais que moi, s'ils me disaient « fais ça », je ne le ferais pas. Alors je les laisse, ils apprennent tout seuls. Je ne dirai jamais à quelqu'un « fais tes devoirs avant de dormir, dors, il est l'heure, dors ceci », je ne fais jamais rien. Je laisse. Ils dorment à l'heure, ils doivent dormir, ils se réveillent à l'heure, ils doivent se réveiller pour aller à l'école. Je ne réveille personne. Je les laisse, ils font à l'école, ils apprennent. Voilà, ils savent lire et écrire.
Mais toi, pour t'exprimer, tu utilises les couleurs, les formes, les différences de tissu au toucher. Ça, c'est le mode d'expression que tu as choisi d'utiliser. Quand est-ce que tu as fait un vêtement pour la première fois publiquement, si je puis dire? C'est-à-dire pas seulement pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, et tu t'es fait remarquer comme couturière, comme tailleuse?
Je crois que je devais avoir 13 ans, hein. J'ai fait un pantalon pâte d'éléphant, jean.
Donc de nouveau occidental.
Oui, parce que j'étais tellement branchée dans Mademoiselle Ange Tendre et Salut les copains. Alors c'était le jean taille basse avec des grands passants et une large ceinture avec des rivets. J'ai fait ça à un de mes cousins. Je devais le payer d'ailleurs pour faire son pantalon. Si je le ratais, je devais le payer. J'ai dit d'accord, je le fais. Si je le rate, je te paye. Mais je l'ai fait, je l'ai réussi. C'est mon premier client, il m'a payé.
Et alors, depuis là?
Non, mais je cousais pour moi, pour mes cousines et consorts. Et mon père, il me disait, le jour où tu rateras l'habit de quelqu'un, tu vas avoir des problèmes avec moi. Alors, pour lui montrer qu'il n'aura jamais de problème, je m'appliquais toujours plus. C'est ça. Alors, les couleurs, et ça dépend du spectacle qu'on doit faire, ça dépend du film, ça dépend aussi du thème de défilé, parce que moi, mes défilés ont toujours une histoire. Je ne fais pas de défilés, les gens qui viennent, qui passent, qui montrent le modèle et qui partent, mais il faut que l'habit parle. Il faut que le modèle dise quelque chose, il faut que ça raconte une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose qui sort de ce modèle, il faut que ça dit quelque chose, voilà.
Parce que c'est de toute façon le cas en Afrique avec n'importe quel vêtement aussi. Tu me disais tout à l'heure dans la voiture, les vêtements, ils ont une signification. Quand on voit quelqu'un dans la rue, à la façon dont il est vêtu ou dont il marche, on peut savoir qui c'est, on peut le reconnaître.
Oui, ça beaucoup. On peut savoir si c'est un chef religieux ou c'est un chef, comment on dit ça encore, si c'est un roi ou bien si c'est un chef guérisseur, on peut savoir si c'est un batteur de tam-tam, si c'est un batteur de djembé, si c'est un... On peut savoir qui c'est, d'après son vêtement. Dès que tu t'habilles, on sait que si tu es cassé ou si tu n'es pas cassé. Avant. Mais maintenant, il y a des changements.
Mais au mot, dans tous les vêtements que tu fabriques, toi, et où tu donnes justement ce sens, tu ne fabriques plus du tout les vêtements inspirés par l'Occident de tes débuts. Aujourd'hui, au contraire, tu as choisi de donner vie à la tradition du vêtement africain. Mais je dis vie dans le sens où il y a aussi toutes les créations de ta part qui donnent de la folie aux vêtements traditionnels.
Si, je mélange les deux, l'Occident et l'Afrique. Je mélange les deux. On retrouve toujours les deux dans mes créations. Par exemple, le spectacle là, tu as vu les costumes de la fin. C'est complètement branché à l'Occident.
Essaye de nous les décrire. Parce que nos auditrices à la radio, elles vont...
Si je les décris, ils ne vont pas venir voir le spectacle. Non, il faudra qu'ils viennent voir le spectacle. Comme ça, ils vont découvrir eux-mêmes. Parce que les costumes, ça parle beaucoup. Alors, il y a les costumes pour les filles qui font la danse de l'eau. C'est le côté sensuel de l'Afrique. Parce qu'une femme avec un petit pagne court, plein de trous et des choses qui brillent, ça attire les hommes. En quelque sorte, il faut savoir bouger avec. C'est tout.
Les couleurs, c'est toi qui les fais, c'est toi qui teins les costumes. Parce que avant que je te rencontre, Katharina von Flotow m'avait ouvert une porte et m'avait fait découvrir une sorte de caverne d'Ali Baba. C'était une pièce où il y avait des tas de tissus différents que tu avais amenés, toi, de Dakar, pour faire ce travail de costume ici. C'est toi qui les as teints, c'est toi-même qui les as peut-être fait tisser ou tisser.
Oui. Les couleurs, quand même, je tiens parfois à les donner moi-même. Je préfère mettre mes propres couleurs que d'acheter les couleurs déjà imprimées. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas pareil dans certains endroits. Si c'est un spectacle de mettre, ou bien c'est un défilé, de mettre des couleurs que tu as achetées. Vaut mieux les créer tes couleurs toi-même, tu les sens mieux quand tu les travailles. Je préfère toujours tisser le tissu et mettre les couleurs et tout, les endroits où je veux et tout ça. Par exemple, le costume du roi, du chef des griots. Tu as vu le tissage bleu et argenté. Et puis, comme j'ai décalé un peu les bandes pour donner le motif que je veux, parce que je n'ai pas quand même fait des costumes typiques au chef des griots. J'ai quand même stylisé un peu à ma manière. Et c'est comme ça. Tu as vu le costume comme il est magnifique.
D'après. Mais tu veux dire que tu tisses toi-même les tissus ou tu fais faire à un tisserand?
Je monte mes trames et je laisse le tisserand continuer. Mais je fais toujours le début.
Et quand tu disais tout à l'heure un vêtement, il parle, tu peux nous expliquer un peu mieux ce que tu veux dire par là?
Enfin, le vêtement, il parle beaucoup, même chez nous. Par exemple, quand une femme est habillée en robe de soir, on sait que c'est une robe de soir qu'elle a mis. Ou bien quand elle... Il y a un jour, j'ai regardé un journal, j'ai feuilleté, j'ai vu un modèle. Alors, ma fille, j'ai ri, ma fille me dit, quoi, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, la dame, là, on dirait qu'elle a raté son rendez-vous. Regarde comment elle est positionnée dans sa robe. C'est comme si on l'a faussé rendez-vous, quoi, aujourd'hui. Alors, elle me dit, mais toi, tu crois que c'est ça? Je dis, oui, c'est ça. Parce qu'il y a des vêtements, ils parlent, même ici, par exemple, avant les rois. Vous aviez des rois, non? Il y avait comment ça s'appelait, la Suisse, je ne sais pas tellement.
Non, pas tellement.
Mais je sais
Suisse,
qu'il y avait,
France,
il y avait Marie-Antoinette, etc. Mm-hmm. Hein? Alors, il y avait aussi, à ce temps-là, les paysans étaient habillés différemment, et puis les boulangers, ces gens-là, tous, il y avait une différence avec les militaires et tout. Et puis, même si les... Enfin, on comprend mieux à l'Occident quand c'est des militaires, parce qu'on sait qui c'est le général, qui c'est le capitaine, qui c'est le sergent. Chez nous, c'est comme ça.
Mais quand on te regarde, toi, on a l'impression que tu es en robe de soirée permanente, parce que les vêtements que tu portes sont si beaux et si inhabituels pour nous ici, qu'on a l'impression que tu es en défilé ou en soirée permanente. Ce n'est pas pourtant pas l'idée que tu veux donner.
Non, 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 je ne suis pas en soirée permanente. C'est que j'adore m'habiller aussi, et à ça aussi. Et c'est ce que mes parents ne comprenaient pas quand il y a une nouvelle mode que je crée, je mets. Ils ne savaient pas que je mettais d'abord le modèle sur moi avant de le mettre sur les autres. Et ils n'avaient pas compris cela, mais je crois que maintenant, ils ont compris.
L'année passée, quand tu étais à Black Movie déjà, pour faire un défilé, c'est ça? Il y avait eu un atelier qui avait abouti à un défilé de mode, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Il y avait un atelier ici qui abouti à un défilé de mode.
Je t'avais croisé dans un couloir, sans qu'on se parle pour cette fois-là, et tu portais un casque colonial. Oh, chose étrange, une Africaine portant un casque colonial. Comment est-ce possible? Est-ce ton choix? Est-ce une satire? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'est-ce que ce vêtement sur ta tête voulait dire?
Enfin, tu sais, j'adore faire ce que tout le monde ne fait pas. Hein. De toute façon, mon père, la première fois il m'a vu avec le casque, il n'osait plus me gifler. Enfin, je ne sais pas, par respect, il ne m'a plus giflé parce qu'il a compris que moi, je mets d'abord l'outil sur la tête ou sur le corps avant de le mettre aux gens. Il a fini, par exemple, maintenant, à comprendre ça. Maintenant, il l'a compris. Et quand la fille qui a fait le film sur moi, Laurence Attali, est venue l'interviewer à la maison à Saint-Louis, il lui a dit, il n'est jamais accepté dans le fouta qu'une fille mette un casque sur la tête. Mais Oumoussi a mis un casque sur sa tête. Elle le porte tous les jours. Alors pour eux, c'est un scandale qu'une femme porte un casque sur la tête. Alors,
et tu voulais provoquer le scandale?
Oui, maintenant je l'ai provoqué. Les gens, ils ont su que c'est, je suis là pour provoquer, quoi. Ils ont compris. Bon, je sais, c'est plus facile pour moi du moment que je ne compte pas sur eux pour vivre, ni pour manger, ni pour boire, ni pour nourrir mes enfants. Je le fais toute seule. Alors, voilà, je suis indépendante, quoi.
Mais quel intérêt pour toi de continuer à provoquer de cette façon-là? C'est important par rapport à continuer à dire que c'est toi qui décides, et ça a peut-être une influence pour le sort de tes cousines ou sœurs?
Tu sais, je suis née dans une race, encore, je te dis, très difficile, où la femme, elle doit être soumise, totale, baisser les yeux quand les hommes parlent. Et moi, je les regarde en face. C'est ça, je leur montre que je mets le pantalon, je mets le chapeau sur la tête comme un homme. Je ne sais pas quelle est la différence entre homme et femme du moment qu'on est fils d'Adam et Ève tous.
Alors, tu penses que vraiment ce qui te donne cette possibilité-là avant tout, c'est que tu es autonome économiquement parlant, tu ne dépends de personne. Tu crois que c'est ça qui te permet essentiellement de faire ça?
Non, ce qui me permet de le faire ça, c'est ma personnalité personnelle. Alors, être autonome, je me suis battue pour l'être. Mais pour le reste, c'est personnel.
Aujourd'hui, beaucoup de femmes arrivent à être indépendantes et autonomes au Sénégal?
Oui, ça commence un peu, mais c'est difficile, tu sais. Moi, je suis la seule qui met un casque encore dans tout le Sénégal. Dans toute l'Afrique, je peux dire. En Casamance, quand même, il y a des femmes qui mettent des chapeaux d'homme ou qui mettent un pantalon, mais c'est des femmes qui sont restées longtemps sans avoir d'enfants. Et maintenant, comme elles ont commencé à faire des enfants, quand elles ont un seul enfant, elles commencent à s'habiller comme un homme pour pouvoir protéger cet enfant. C'est encore la coutume et la culture. Ça, c'est une autre phase qu'on va expliquer peut-être une autre fois.
Alors aujourd'hui, pour terminer, tu voyages beaucoup, tu te déplaces beaucoup. C'est les enfants, tes enfants, ils ont quel âge aujourd'hui, tes 5 enfants?
L'aînée, elle a 20 ans. Elle aura 21 ans le 20 décembre. Et c'est une fille très jolie et qui a beaucoup de personnalité.
Elle est qu'un papa playboy et une maman femme maîtresse
pas. Elle ne voit pas le papa du tout parce que, tu sais, moi, on ne perturbe pas l'éducation de mes enfants quand on a rien à faire. Parce qu'un enfant, si tu ne le nourris pas, tu ne t'en occupes pas, tu ne traînes pas à côté de moi. Ça, c'est fait aussi de mes principes. Je les ai mis dans la tête, je les ai mis assis quand ils étaient petits. Écoutez, votre papa, bon, maintenant, c'est moi, papa, et maman, c'est moi. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est moi qui vous le donne. Et voilà. Sinon, si vous avez envie de voir pour votre père, vous allez le voir, mais qu'il ne mette pas pied chez moi. Et maintenant, ils ont quand même été un peu le voir et tout ça. Maintenant, bon, ils sont restés tout seuls, ils sont avec moi. Ils ne sont plus avec le papa, ils ne sentent même pas s'il n'est pas là. C'est-à-dire, ça ne les manque pas, en quelque sorte. Et là, le second, c'est un garçon, il a 19 ans. Il écrit beaucoup, il fait des raps. C'est un rappeur, mais il étudie encore. Mais il fait ses raps que sur sa mère. Et l'autre, c'est une fille. Elle a 17 ans. Et elle a arrêté ses études pour faire la caméra. Elle veut devenir une caméraman de cinéma. Et l'autre, c'est un intellectuel, pardon, qui veut vraiment étudier et être banquier et gagner beaucoup d'argent. Pour aider sa maman. C'est gentil.